Je voudrais introduire notre communicant suivant, Mireille Laurence-Urea. Pardon, Mireille, si je prononce mal ton nom et ton prénom. Et je vais te laisser peut-être te présenter toi-même, hein, parce que tu as un parcours un petit peu particulier.
Bon, oui, c'est super bien. Hein. Bon.
Bonjour. Donc, je m'appelle Mireille Laurence-Urea. Je suis de Roumanie. Mais j'ai fait mon master ici à Paris 12. J'ai commencé un doctorat, mais après, je l'ai abandonné. Donc, j'ai habité à Paris pendant 9 ans, de 2004 jusqu'à 2012. Donc, je veux m'excuser si j'ai des fautes, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français couramment. Donc, je veux faire une grande histoire d'ego. Je suis désolé pour la petite histoire d'ego. Je suis né à Craiova. Quand j'étais jeune, j'ai joué dans un groupe de punk, post-punk, qui s'appelait Terror Art. Pour ça, je dis que c'est une grande histoire d'ego, parce qu'il est, je crois, le plus connu de Roumanie. Donc, oui. Et je suis vraiment très content que je... Oui. J'ai joué pendant 8 ans. Après, j'ai commencé à faire mes études en philosophie à Cluj. Et après, j'ai pris une bourse. Et je suis venu à Paris. Après, quand j'ai revenu en Roumanie, oui, vous savez, toutes ces histoires d'immigration, de revenir à la maison, j'ai commencé à cet âge de faire mes mémoires, d'écrire mes mémoires sur le punk, parce qu'à Craiova, c'est ça que je veux commencer, à Craiova et à Timișoara, il y a été deux mouvements, vraiment deux mouvements avec des ONG, deux mouvements punk qui s'appelaient en fait les mouvements punk underground de Timișoara et les mouvements punk de Craiova. Je veux vous parler un peu des années 90, parce qu'avant 90, donc avant la révolution, il n'y a pas beaucoup de punk en Roumanie, parce qu'il a été interdit en fait, mais il y a des gens qui écoutent de punk, mais pas vraiment des groupes. Pas des groupes de punk, pas de musique, mais il y a des punkards. Donc, je vais faire un peu l'histoire du punk de Roumanie. Donc, les premiers punks, ils ont apparu à Timișoara, mais plus, en fait, dans les petits villages de la frontière avec l'Hongrie et les Serbes, avec l'Yougoslavie. Dans les années 82 ou 83. Donc, les premières cassettes, parce que c'était le temps de cassettes, les premières cassettes des pliants, des fanzines, ils ont apparu en Roumanie, à la frontière entre Roumanie et des autres pays de l'Est qui ont été plus ouverts que la période Ceaușescu en Roumanie. Donc, à Timișoara et après à Craiova. Donc, ils ont été de quand avec la révolution, mais après la révolution, c'était vraiment une exposition du mouvement punk. Après la révolution, la libération, et nous, on était dans cette génération. En 90, moi j'ai 13 ans, et après, à 15 ans, j'ai commencé ce groupe, Terror Art. Donc, et quand je suis revenu en Roumanie, j'ai recommencé à travailler sur le punk. J'ai écrit quelques articles qui ont été publiés dans des revues roumaines. Et j'ai fait une exposition, j'ai fait quelques interviews. Donc, j'ai commencé, en fait, j'ai écrit un livre sur mon histoire punk, sur mon histoire de mon adolescent et d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait une exposition avec une collègue à moi qui est lecteur à l'Université de l'Art de Bucarest. On a curatorié cette exposition et avec l'aide d'une galerie, une grande galerie de Roumanie qui s'appelle Senano, résidence Senano. On voit là-bas. Et je vais vous montrer cette exposition qui a été l'année dernière, qui s'appelle post-punk. Donc, au plan théorique, je veux vous dire, on commence de cette question, punk is dead, punk's not dead. Donc, Je crois que l'histoire du punk, ça a été cette histoire, cette dialectique du punk is dead, punk's not dead. Et je crois que c'est là qu'on n'a pas l'idée qui est vraiment très, très, très forte de l'authenticité sur le problème de l'authentique. On voit dans ce punk cette idée de ce rapport paradoxal et tensionné entre qui est le vrai punk et qui est le faux punk. Non, punk is dead, ça veut dire le vrai punk, le vrai mouvement punk mort immédiatement après le premier groupe. Non, je ne sais pas, Hip Hop en Amérique et Petit Smith, en Angleterre, Sex Pistols et Clash. Et on voit cette tension immédiatement après la naissance du punk, qu'on parle de la mort du punk. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant. Et aussi à la renaissance du punk. Hein? Punk is dead, punk is not dead. Donc ça, c'est du point philosophique qui m'intéresse beaucoup. Le deuxième, pour ça, j'appelle mon exposé le cynisme et le punk. Donc sur le punk et cynisme. Et je crois que beaucoup de travaux qu'ils ont fait sur le punk, on parle beaucoup sur l'héritage dadaïste. Dans l'esthétique, de l'héritage situationniste dans la politique, mais on oublie souvent cet héritage cynique. Et comme j'ai travaillé beaucoup sur Michel Foucault, mon master c'était sur Michel Foucault, le doctorat, je l'ai fini cette année, c'est aussi sur Michel Foucault, et je crois que c'est une dimension du punk qui n'a été pas vraiment explorée, qui, moi je le dis que c'est l'éthique du punk. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à faire l'expo, et c'est à partir de mon travaux sur la contre-culture punk. Donc, on a ces trois dimensions, donc la révolte, la subversion politique, la résistance éthique et la transgression esthétique. Donc, c'est ça qui, je crois, que sont les trois dimensions du punk. Comme contre-culture. Donc la dimension politique, c'est toujours cette approche anarchiste, cette approche libertaire, donc subversion des idées contre l'État, anti-étatique, des idées anarchistes, oui, de la révolte directe, tout l'ensemble des concepts, des idées, des mouvements, des actions, non, politiques, comme vous avez parlé de ces rapports avec les nazis, avec les skinheads, non, des violences. En Roumanie, ça a été beaucoup de... On a eu dans presque tous notre concert, ils ont été des bagarres avec les nazis. Et je me rappelle d'une à Timișoara qui a été vraiment très violente avec la police, qu'ils ont venu, qu'ils ont arrêté beaucoup de gens. Et je vais vous rappeler encore une à Craiova. On a joué dans l'escalier du Théâtre National de Craiova, tout seul, des terroristes, tout seul en concert, et la police, ils sont venus, on a pris tous nos fans qui font du pogo, mais nous, et nous on a continué à jouer en face d'une chaîne de gendarmes, sans public, en fait, et ça a été notre expérience, je crois, la plus sensible et la plus forte politique. Mais je reviens donc à ces dimensions politiques, messages politiques dans presque tous les groupes de punk de Roumanie, aussi dans le groupe Terror Art, et évidemment de transgression esthétique. On sait, le punk c'est anti-universitaire, anti-canon universitaire, anti-normes universitaires, avec tous ces bricolages de fanzines, de pliantes, d'images, mais des images qui n'est pas canonisé, non? Et la troisième dimension, qui, moi, je vais travailler sur cette dimension, sur l'éthique punk. Éthique, je crois qu'il y a une éthique, et c'est ça. Et c'est là, à mon avis, qui est la dimension la plus véridique du punk, c'est que, après ces formes de transgression et de révolte qui sont un peu plus de la destruction, dans l'éthique punk, on a, je crois, sur le fond de la construction éthique. C'est la construction d'une construction du sujet, de parler comme Foucault, de la sujet collectif, je crois, j'espère, ou du sujet groupe, comme il dit Guattari. Donc, on a sous cette dimension du sujet. Donc, le DIY, par exemple, tous les formes de vie punk, c'est ça qui je crois, qu'il y a des formes de vie punk, le problème de l'écologie, le problème de la nourriture, le problème de toute cette construction d'une forme de vie nouvelle ou de vie alternative, non ? Aussi sur le problème d'habitation, de squatter et d'habiter ensemble. Terror Art a joué dans beaucoup de villes d'Allemagne et on a joué dans des squats où il y a été vraiment des communautés, il y a des cinémas, des salles d'exposition. Donc, cette invention des vies collectives, donc cette invention du soi et de soi avec l'autre. Et je crois qu'on a cet héritage cynique la plus importante. Et je parle ici des derniers cours de Michel Foucault au Collège de France, qui ont été vraiment sous le mouvement cynique. On sait sur le cynisme, ils ont été le philosophe le plus radical de l'ancien, de Grèce ancienne, plus radical que Socrate. Avant lui, et c'est ça qui est important, avant lui, le but de la philosophie, ça a été la sécurité d'âme et de l'harmonie. Donc, si on parle de Socrate, de Sénèque, d'école cynique, d'école stoïcienne, on parle toujours de l'harmonie. Une vie harmonieuse, une vie simple mais harmonieuse. On a l'harmonie entre le logos et le bios, entre le discours et la forme de vie, l'action ou le caractère. Mais on a toujours cette idée de l'harmonie, cette idée de correspondance entre qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit et comment on vit. Non, on parle de cet art de vie, mais sous le fond de l'harmonie. Le cynisme, c'est la contradiction. Il abandonne le logos, il dit non, le discours, c'est pas très important, le logos, c'est toujours le bios. C'est pas le bios qui on montre la vérité. Et la vie cynique, c'est une vie pas harmonieuse et c'est une vie tensionnée. Comme le punk aujourd'hui, c'est une vie de la rue. Ils abandonnent l'idée et aussi la pratique de la vie intime ou de la vie privée. Ils transgressent cette idée de privé et public. Toutes ces vies sont dans la rue. Toute la vie de Diogène, par exemple, c'est dans la rue. Il se masturbe là-bas. Il vit dans la rue. Il parle d'une... la première fois qu'on parle de citoyens du monde, non, c'est Diogène qui est le... on parle immédiatement des citoyens du monde. On a quelques butades de Diogène, non ? Je suis sans famille, sans patrie, mais je suis heureux et libre, non ? C'est ça, Diogène. Donc, je crois que l'héritage qu'on fonde des vies de punk d'aujourd'hui, c'est cynique, c'est le cynisme. Le cynisme comme forme de vie, et donc comme action, comme... Et cette idée, c'est ça qui est... Je vais finir la théorie. Cette idée, moi, j'ai pris de Michel Foucault parce qu'il dit à la fin de ses derniers cours sur le cynisme, qu'il y a trois héritages du cynisme. D'abord, c'est le mysticisme chrétien, les anachorètes et les mystiques qui partent et qui vivent seuls, les anarchistes du 19e siècle... avec les vies secrètes et des mouvements anarchistes, on sait très bien, aussi en France, au 19e siècle, et les artistes contemporains, les performeurs. Donc les gens, les artistes qui travaillent beaucoup sur le body art, sur le problème du corps, sur cette exposition du corps, et du public, les happenings et les performances qui sont publiques, qui sortent des musées, qui sortent de galeries, et je crois que le plus fort héritage de cynisme, c'est le punk. Donc, c'est ça du point de vue théorique. Et c'est là, c'est à mon avis, une construction d'une forme de vie, d'une forme de vie, une esthétique de vie. Non, mon travail s'appelle La vie comme œuvre d'art punk. Et c'est là que je crois qu'on a cette dimension éthique comme mise en forme. Donc, du bios, de la vie. C'est ça, c'est du point de vue théorique, mais les questions sont ouvertes. Et maintenant, je veux vous expliquer un peu l'exposition. On a pensé à cette exposition dans les années 20, mais après le Covid, ça a été le Covid, on a été interdit, mais on a pu le faire en 21. On appelait le post-punk. Je vous disais encore, sous cette dimension, punk is dead, punk is not dead, ou post-punk, néo-punk, post-punk. Le problème, c'est si le punk est mort, ou s'il est mort, le punk véritable, punk authentique. Mais il y a aussi des ramifications du punk, ça se voit, sur le corps, sur les tatouages, sur les formes de vie, non? C'est ça, l'héritage ou dans l'esthétique. On voit des artistes, beaucoup des artistes, je crois qu'ils ont cette rassemblance avec le punk, je ne sais pas, Fluxus d'Allemagne ou Marina Abramovic, je crois que c'est elle est dans cette c'est la même horizon, mais plusieurs. Donc on a fait cette exposition à partir de mon archive, parce que j'ai une grande archive des photos et de musique des années 90. Et on a invité trois artistes parce que on a pensé que si le punk est mort, l'attitude punk elle est pas mort. Et on a vu dans les artistes contemporains, si le punk là comme musique, comme punk rock, je sais pas, peut-être le punk comme punk rock est mort, mais on a cette attitude punk qui n'est pas mort. Et on a vu dans les trois artistes, donc trois grands artistes en Roumanie. Des attitudes punk, et on l'a invité, et encore pour ne pas être très nostalgique, l'exposition très nostalgique sur le punk de Craiova et sur Terror Art. Donc, on a cette photo, et derrière, c'est lui qui a été vocal de Terror Art. Donc, c'est comme ça qu'il commence l'exposition. Ici, où est la fille, ça a été la première chambre. Ici, c'est au milieu de l'expo. Et en face, ce sont les artistes. On a invité trois artistes de Bucarest, de Cluj et de Timișoara, qui sont été les vraies trois villes de punk en Roumanie. Et on a dit d'avoir des trois artistes contemporains, mais qui viennent de ces villes-là. Non? L'exposition, ça a été on a fait à Bucarest, mais on a invité. Et là, on a le groupe Biserica. Il s'appelle Biserica avec le K. Il a fait une altar punk. Ils ont fait une altar punk avec des objets et des choses qu'ils ont pris de la rue, des trucs comme ça. Ils l'appelaient l'altar. Dans ces chambres, on a des photos de mon archive des années 90. On a ici le pogo des jeunes. Ça a été un concert de Terror Art dans la souterraine de l'école militaire. Parce que ça a été vraiment très difficile d'avoir des salles de concert, mais ça c'est du pogo. Nous on a eu ici 14 ou 15 ans. Là sont des photos de Terror Art, plusieurs endroits. Et ça a été deux murs, une avec le pogo et un film, et l'autre ça a été d'une collage, parce qu'on sait très bien le punk c'est du collage. On a fait un collage, un grand collage sur un mur. Des photos, on l'a découpé, on a commencé à faire vu faire expo comme être punk, tout collage, on a essayé de pas être seulement une documentation d'une archive, on a voulu être vivant cette exposition. Hein? Cette photo, cette grande photo d'une punkiste, ça a été sur le premier mur de première chambre. Et là, on voit mon collègue de Terror Art, Alex, qui est dans la deuxième chambre, et c'est entre les plus importantes chambres, je vous dis pourquoi. Ici, on a une photo de l'expo, on a dans cette expo deux TV avec des concerts de Terror Art et d'un autre groupe anti-pro, mais on l'a mis sur à pied en fait, très bas. Et là, on a deux artistes connus à Bucarest, Irina Botea-Bucan, elle est connue. Ici, on a aussi la photo du troisième chambre. Ici, on a fait la dernière chambre. On a fait huit chambres. La dernière chambre, on appelait squat. Parce qu'on a des photos du squat de Berlin, où Terror Art a joué plusieurs fois. avec des cassettes. On a mis un ancien cassettophone, on dit, non ? Cassettophone ? Avec des cassettes, des photos de squats. Et on a arrangé comme un squat, comme un petit squat. Ouais. Et tout le monde, elle pouvait... On a joué beaucoup sur cette idée du collectif, du groupe. Ça, c'est une photo de Craiova, vraiment dans les années 90. Ici, on a fait une manifestation contre le parti de droite, d'extrême droite de Roumanie. Je ne sais pas si vous connaissez le parti Romania Mare, la Grande Roumanie. C'est comme Le Pen ici. Ça a été un politicien comme Le Pen, un père. Il s'appelait Vadim Tudor. Et ils ont commencé à monter dans les sondages. Et nous, on a fait une manif à Craiova, bon, sans autorisation, sans rien. Donc. Mais avant, en Roumanie, on a vécu presque 5 ou 6 ans d'anomie. Donc, la loi, on ne sait pas qui c'est la loi. Il y a beaucoup de corruption, nous aussi. Donc, on a sorti dans la rue. La police, ils n'ont rien fait. Maintenant, c'est interdit. Donc, nous, on a fait une manif contre le... On a fait deux grands manifs à Craiova. Une contre le front, le parti de nationalistes, et l'autre sur l'invasion ou le bombardement de Roumanie, de l'Amérique en Yougoslavie. Donc, ça, c'est la... sont des anarchistes à Craiova dans les années 90. Donc, nous sommes des amis à nous. Ça, c'est le Craiova, ça, c'est la Roumanie de 90. Donc, sinon, on a aimé. Parce qu'on voit très bien la Roumanie il y a 23 ans. Beaucoup de pauvreté. Aussi des punkis dans des squats. Roxana, Nelu et Mihaela. Aussi cette idée de les mains, aussi les pieds ensemble. Ça, c'est, on a adoré. Là, on a une image de l'expo. Avec à droite, c'est un concert à Craiova du Terror Art et aussi du groupe allemand Corrupted Morals 84. Et là, c'est une photo dans une chambre squat de Sans Souci. Et sur cette photo, grande photo de Sans Souci, les gens qui visitent l'expo, ils ont commencé à écrire ACAB, anarchie et tout ça. Donc on a aimé ça. À gauche, c'est une image vraiment très importante. Il y a un film de Terror Art. On a exploité beaucoup cette on ne savait pas avant qui est lui qui a filmé. Donc, c'est un film qui est fait par un jeune metteur en scène dans les 90 de Terror Art de Craiova, dans une TV, une télévision de musique comme MTV, mais MTV Roumanie, bon, je ne sais pas. Et avant, on a vu que cette jeune qui a filmé Terror Art en Roumanie, c'est un film de 7 ans, c'est rien d'autre que Cristi Puiu. Je ne sais pas si vous savez de Cristi Puiu, il est celui qui a... il est à l'origine de Nouvelle Vague Cinéma en Roumanie, il a pris je ne sais pas si le Cannes, mais le... où il a fait le film qui est connu, La mort de Dante Lăsărescu. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il y a lui qui est vraiment l'origine des nouvelles vagues roumaines après Révolution. Donc, oui, il est très, très bien connu en France. Il a pris, je crois, le certain regard. Le Pandore, il a pris un ami à lui qui est Mungiu. Il y a quelques années, mais c'est le Cristi Puiu qui a fait ce film. Il était jeune. Et il a fait ce film sur Terror Art dans le style de Nouvelle Vague Roumaine, qui est en caméra vraiment très mobile. Il filme derrière, pas les visages. Donc il a tout un style. Et pour nous, ça a été vraiment super, super sympa de voir que ce film-là, il est fait par lui. On ne savait pas avant qui est Cristi Puiu. Même lui, parce qu'il n'est pas encore un grand metteur en scène. Et ça, ce sont les images du concert, des jeunes déshabillés, des pogos, donc dans des petits caves. Et ça, ce sont des photos sous l'exposition avec les images de l'exposition. Ça, c'est le collectif Bisserica, qui est au centre. Ouais. Le collectif de Timișoara, qui a mis des objets, il a fait de plusieurs objets, comme oui, dans des idées de cyberpunk et de new punk. Ça, c'est la chambre qui, je vous dis, des squats, avec un TV ici qui filmait du squat allemand de Berlin. Et là, c'est sur le mur de Sans Souci. Parce que c'est de l'archive de Terror Art, cette image-là. Et les gens, ils ont commencé à écrire là, tous les des jeunes qui n'ont pas été vraiment très, très à l'aise avec le punk, ou qui n'ont pas de génération forte punk, non, des 90. Eux, on les a mis à disposition pour faire des petites écritures comme les punks, tu vois. ACAB, Punk's Not Dead. Là, ce sont des cassettes, des anciennes cassettes, ce sont des cassettes à moi, avec Sex Pistols, Clash, Swans. Parce que nous, c'est quelque chose d'important. Le punk en Roumanie a apparu, il est venu en Roumanie en même temps que le post-punk. Et en fait, nous, on a écouté avant le punk, post-punk. Nous, en Craiova, par exemple, dans les années 90, on a écouté beaucoup Bauhaus, Joy Division, Eichstätt de Neubauten, ou Swans. Et après, on a découvert Sex Pistols, Clash, Ramones, Iggy Pop, Patti Smith. Et ça a été. Ce sont des histoires. C'est une histoire vraie, à mon avis, que je veux faire l'histoire du punk de l'Est. Parce que c'est vraiment très différent, temporellement et spatialement, que l'Ouest. Ici a été une continue. On voit Amérique, Angleterre, la France et toute l'Europe. Mais parce que le bloc communiste a interdit, on a. Vraiment comme avant-garde la Yougoslavie et Hongrie, mais après on a Roumanie, Bulgarie, tous ces pays qui ont été dans le bloc communiste. Mais vous savez, maintenant il y a une nouvelle vague en Russie, une nouvelle vague de punk ou de post-punk. Il y a des groupes excellents de post-punk, en plus de punk gothique en Russie. Donc ils redécouvrent un peu le post-punk des années 90-20 de l'Occident. Donc ça, c'est des cassettes. Ça, c'est une photo, parce qu'en plus, nous, on a travaillé ensemble avec un poète roumain qui s'appelle un poète punk, nous on l'a dit, Supuranu, qui est un poète aussi connu. Et là, nous sommes chez lui. Il a écrit beaucoup de textes textes qui, nous, on les jouait dans le Terror Art. Ça, c'est une autre artiste de Cluj, Sacha Bandi, qui a fait un dessin. Il est aussi un artiste connu en Roumanie, sous le graffiti ou des dessins comme ça. Ça sont les deux, du collectif Bisserica de Timișoara. Ça, c'est le mur de Sacha Bandi, avec Voice of Freedom, Cancel Culture. À propos de nazis, tout le monde, il dit qu'il est de droite. Mais il n'est pas. Mais il veut choquer. Il est un artiste qui veut choquer. Il y a des gens qui ont dit non, Mihai, il faut pas inviter Sacha Bandi parce qu'il est de droite. Mais nous, on a parlé avec lui. On s'est bien documenté. Il n'est pas de droite. Mais c'est vrai qu'il veut choquer encore. Il a cette, un tout petit peu de l'imagerie nazie. Mais comme monsieur a dit, il faut faire, quand on fait l'histoire, les skinheads, ils viennent de punk. C'est faux pour nous, parce que nous, on voit que le punk est être pur. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, a été une petite histoire nazi-punk. C'est vrai qu'on veut les critiquer, les souminer, mais si on fait une bonne histoire, c'est une bonne histoire avec eux compris. Donc le nazi punk, il vient de punk, c'est comme ça, beaucoup avec la musique, donc, oui.
Roxy, je crois, mm-hmm. Il y a Ron Ashton qui était le guitariste, le dernier guitariste à la fin, qui porte un brassard nazi,
ouais.
Qui a la croix, et même Motorhead, Lemmy, il était complètement obsédé par les artefacts nazis.
Aussi, Sidvic aussi l'a eu. Hein.
Oui. Oui. Donc.
Oui, c'est ça qui est.
Comment dire, non-connaissance.
Non-connaissance. Ou peut-être, peut-être des choses qui est. Je crois, par exemple, dans l'imaginaire Laibach.
C'est peut-être plutôt de choc plutôt qu'une
une acceptation ou une idéologie qui en a, oui c'est ça qui non. Bon, donc il est dans notre exposition et là on a derrière l'exposition, l'exposition commence dans la dans le jardin, on a la plus jeune artiste de Roumanie qui est exposée dans le musée d'art contemporain. Elle s'appelle Megan Dominescu. Elle travaille beaucoup sur le, comment ça s'appelle en français, sur le crochetage, hein, on dit crochet. Et elle a fait deux crochets là, de deux punkistes qui défend l'exposition. Et moi, je l'ai adoré. Ils sont sous les, pommes, sous les, l'arbre, les arbres. Et oui, elle est vraiment dans une. Dans une bon mouvement artistique parce qu'elle est jeune et vraiment très fort à mon avis, très politique et très fort, c'est ça. Elle a voulu collaborer avec nous et nous on a été vraiment super contents. Et moi j'adore ces deux punkistes qui défendent l'exposition. On a cette parce qu'à Craiova aussi a été apparu un mouvement féministe dans les années 2000, Love Kills s'appelle, avec des fanzines. Aussi à Craiova a apparu le premier fanzine de Roumanie qui s'appelle Revolta Punk. On a de l'image. On a fait dans les années 84. Et c'est nous, quatre amis qui ont fait. Ils ont été trois numéros avec des traductions des textes, des images qu'ils ont pris. Vous savez, c'est avant l'Internet, c'est avant les. Et ça, sont des fanzines. Dragoste Uccide, ça veut dire Love Kills. Ça a été des punkistes, donc des filles de ces mouvements, des groupes, de notre groupe de Craiova, qui ont commencé ce mouvement féministe en Roumanie. Ça, c'est aussi une photo du collectif Biserica. Avec des boîtes allumettes, CCP, des cigarettes de l'Union soviétique. Ici à gauche, on a des boîtes allumettes avec des figures de politiciens. Comment? Ça a été le panneau du fanzine. Donc on a Love Kills, une autre fanzine qui a resté plusieurs années, s'appelait La Haine. Aussi faites de femmes, non de, aussi de féministes, vraiment des féminismes anarchistes. C'est ça, La Haine, Oura. Et on a fait une chambre avec des fanzines, de fanzines jusqu'au là, sur tous les murs. Et là, c'est Ionel Ciupurano, le poète, qui a écrit des textes sur le terror art. Il a un poète punk. Et son chambre, ça, on a fait. Parce que dans ses poèmes, on a beaucoup d'idées de polyphonie, de plusieurs voix qui parlent. Et on l'a enregistré en quatre coins. Et en fait, on a fait une polyphonie, une vraie polyphonie. Il lisait de ses poèmes et au milieu, on n'attendait pas. Si on allait vers une coin d'une chambre, on pouvait distinguer ses poèmes, mais si au milieu, c'est vraiment une polyphonie sans distinction, sans différence. Et c'est lui, oui. Et on a mis, ça c'est de mon archive, le premier poème pour Terror Art qu'il a écrit, on l'a agrandi évidemment, c'est le premier poème pour Terror Art qui s'appelait des poumons noirs, quelque chose comme ça. Et c'est celui qui l'a écrit, en fait, des années 90. Donc, aussi, c'est de l'archive. Et ça, ce sont des photos d'archives. Encore la chambre avec les fanzines. Encore. Ça, c'est le Terror Art en concert. Donc, ça, c'est une affiche de Barricade Antifa. Le deuxième album de Terroir, ça veut dire Barricade antifasciste. Aussi Craiova antifasciste. Ça, c'est une photo du concert. Aussi fabricant. Le mur avec des photos et des fanzines qui l'ont coupé. Et ça, c'est Dan, le vocal, qui maintenant travaille dans un squat à Berlin. Ou non, pas à Berlin, à Weimar. Donc, il est vraiment encore dans le milieu punk. Ça a été notre âme, en fait, du groupe. Il est serbe. Et ça, c'est la dernière image, avec des fanzines, Dan Nikic. Et c'est tout. Et pour finir, je veux, si vous voulez, pour mon ego-histoire, d'écouter une chanson, une pièce de Terror Art qui s'appelle 89, et c'est sur la révolution de Roumanie.
Merci beaucoup, Mihai, pour cette sortie de nos frontières hexagonales. Là, et ça fait du bien. Je vais commencer, effectivement, avant la salve de questions, pour poser les miennes, parce que c'est moi qui ai le micro. Je voudrais, te poser deux questions qui sont peut-être en lien. Je vais essayer de faire un lien entre les deux. Mais d'abord, sur l'aspect théorique, effectivement, tu as parlé de Foucault. Il me semble que le lien que l'on pourrait faire... avec Foucault, c'est effectivement la critique de l'auteur, la critique de l'œuvre écrite par l'auteur, et peut-être que la musique en tant qu'œuvre, l'album en tant qu'œuvre, peut-être que le punk viendrait effectivement remettre en question radicalement cette capacité à faire œuvre, avec la question du do it yourself. Il n'y a pas d'artiste en tant que tel, très iconoclaste, quoi, de dire mais tout le monde peut le faire. Et en essayant de produire une esthétique non esthétique, hein, tout le paradoxe effectivement. Donc j'aimerais savoir ce que et poser la question effectivement du présent, hein, voilà. Et donc du coup là dedans, hein, du coup il n'y a pas d'œuvre qui reste, hein, il n'y a que du présent. Donc j'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que toi tu vois effectivement, est-ce que ça t'intéresse ce côté-là? Et la deuxième question du coup en lien avec ça, c'est effectivement c'est passionnant. Tu as fait une exposition effectivement de tes archives. Donc du coup quelque part. Tu viens légitimer une histoire aussi à reconnaître. Du coup, ce paradoxe-là avec la question du punk, que du coup, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que du présent, il n'y a pas d'œuvre en tant que telle, etc. Effectivement, il me semble qu'il y a un paradoxe-là, du coup, le fait d'exposer effectivement ses archives, son patrimoine, hein, que tu constitues comme tel. Est-ce qu'il y a eu des réactions, des médias peut-être, peut-être du public, peut-être des personnes de ta génération, voire des plus jeunes, ou peut-être des plus anciens aussi, avant les années 90 et la Révolution, qui ont fait des commentaires là-dessus, peut-être en disant c'est super, peut-être en disant non. Est-ce qu'il y a eu des tensions? Parce que c'est vrai que nous, avec les journées d'études PIN, c'est quelque chose qui arrive, voilà, c'est commun, on va dire, hein, et ça fait partie des objets que Luc Robin et Solveig Serre viennent questionner, hein, forcément. Oui. Donc voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus, et du coup après je laisse
les personnes. Moi j'ai rigolé un tout petit peu avec mon histoire d'ego, mon grande histoire d'ego. Vous savez, il n'y a pas mon photo. Donc j'ai essayé de n'avoir mon visage sur cette expo. Pour ça, j'ai travaillé, parce que je crois que j'ai oublié, en fait, j'ai co-curatorié cette exposition avec Raluca Wancha, qui était POF. Donc j'ai essayé, sous le geste de Foucault, d'effacer mon visage. Donc il n'y a pas de photo sur cette expo, je n'ai pas... De mon visage. Je rencontre l'histoire de Terroir, mais par un chanteur de Terroir. Mais j'ai essayé beaucoup de ne pas être la figure centrale, parce que aussi, c'est pas moi qui ai été la figure centrale du Terroir, ça a été Mikic, et c'est lui qui a été mis en avant. Ça, c'est une question. Mais la question profonde, c'est sur Foucault, oui. J'ai travaillé beaucoup sur Foucault. C'est clair, j'écris en fait aussi un article sur le problème du rapport, le punk, je crois que c'est l'origine du rapport entre la transgression, la dissipation de cette idée du spectacle et à hauteur. Non, le pogo, le Dead Kennedys, par exemple, qui joue ensemble dans le milieu du spectateur. Donc on n'a pas cette dualité artiste-spectateur. Dans le punk, on commence à hybridiser, non, c'est cette idée de la mort de la hauteur. Donc c'est vrai, oui, j'ai mis beaucoup sur le travail sur la contre-culture et le punk du boîte à outils foucauldien. Donc c'est cette idée de la mort de l'auteur. Mais encore, je travaille, c'est de là que je commence, sur le problème de la loi et de la norme. Et c'est ça, pour ça je dis, on sait très bien, parce que Foucault, il fait une onde d'extension, il fait une histoire de la loi, une histoire de la norme. Ici, il fait cette analyse de différence entre la loi qui hérite de décider d'interdiction, permission, interdiction, et la norme qui est sous l'héritage médical, mais plutôt sous la normalisation, mais la positivité de... C'est quoi la différence entre une norme et une loi? C'est que la loi interdit et que la norme est positive et qui t'incite de faire quelque chose. Et c'est ça, une norme positive, il faut être en grande santé, il faut vivre... sans alcool, il faut vivre bien, il faut vivre en... Oui, c'est dans une norme. Une norme, c'est toujours une norme de conduite.
Tu as du pouvoir, elle fait faire. La norme,
oui, il faut faire. L'autre, la loi, il dit qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et c'est ça qui est, je crois, important. qu'on a la loi, et c'est ça pour ça que je dis encore des révoltes, des subversions politiques chez les punks, oui, c'est contre la loi, mais aussi invention et résistance, comme tenir bon à la norme. Et la résistance, je crois, si on parle de résistance, on parle toujours, pas seulement dans la loi, mais plutôt sur la norme. Sur la norme, la résistance de la norme qui veut faire quelque chose de notre vie. Hein? Les normes de bonne conduite et les normes de santé, de bonne santé, ne sont pas des lois ou passent par la loi, mais c'est plutôt des normes de vie. Et je crois que dans la forme de vie punk, il y a résistance à ces normes positives de vie. Vie en santé, vie en... je sais pas, il faut que tu te laves toujours, tous les matins. Et le punk, non, oui, c'est bon. C'est pas la même hygiène dans le punk. Et les, oui, mais c'est pas... Moi, je veux dire que c'est la vie du punk, c'est plutôt sur ce côté contre les normes. Mais la résistance à la norme, c'est pas une résistance directe. C'est que tu construis autrement la vie. C'est ça mon idée. C'est ça mon idée qui part de Foucault. Et c'est qui ont fait ça comme le radical, comme on fait les punks, sont les cyniques. C'est eux qui ont construit leur vie dans le paradoxe, pas dans l'harmonie. Et je crois que l'idée importante du punk, c'est que c'est une vie en tension. En tension, ça veut dire en paradoxe. Ce sont des vies paradoxales. Aussi anorganiques comme Pogo, comme musique, qui veut sortir de soi-même. Donc, désubjectivation dans le langage de Foucault, mais aussi resubjectivation éthique, des mises en forme d'une vie collective, militant, actif, de vivre ensemble, écologisme et tout ça. C'est ça qui est, je crois, le vrai punk. Désubjectivation à la fois, dans le pogo, dans la musique et dans l'alcool, dans les drogues, mais aussi resubjectivation éthique, résubjectivation comme forme de vie. Et c'est d'un côté révolte à la loi et de l'autre côté résistance, création éthique à la norme. Et c'est ça qui, je crois, que c'est le point important. Il y a différence entre la loi et la norme.
Eh bien, merci pour cette réponse complète.
Oui. Pour ça, je dis que je suis bien dans Foucault et de lui qui je parle.
Je vois ça.
Ok.
Merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelques questions avant d'aller manger, Simon? D'abord, Simon, il n'a pas pu poser sa question.
Est-ce que tu y retrouves également un cynisme festif pour faire un lien avec la présentation un peu plus tôt? Je pense, par exemple, à l'image du clown, mais peut-être moins chez Beru que dans NoFX, par exemple, Fat Mike, qui utilise l'image du clown pour tourner en ridicule normes et lois, en fait, tout déconstruire, en quelque sorte. Tout déconstruire, que ça soit la norme ou encore la loi. Est-ce que vous trouvez, par exemple, une forme de cynisme festif qui joue du rire, en fait, qui s'attaque directement à la loi?
J'ai pas très bien compris. Un mot, en fait.
Okay.
Donc, déconstruire la norme.
Ouais, déconstruire la norme et également tourner en ridicule, en fait, se rire de et mettre en pratique ce rire via le punk, une forme de cynisme festif.
D'accord, oui, je comprends. Oui, il y a la déconstruction. Mais la déconstruction, c'est plutôt dans cette idée de déconstruction du langage, d'une construction, des signes. Mais je n'utilise pas cet terme. Je n'utilise pas cet terme parce qu'il est vraiment très polysémantique, à mon avis. Derrida, il dit que la déconstruction commence par la violence. OK, donc il faut retourner le système. Mais il faut le retourner avec le tête dedans. Et après, il faut le replier, le remandeler, tout ça. Moi, je ne le trouve pas très bien pour le punk, à mon avis. Je ne le trouve pas parce que le punk, il ne veut pas retourner le système. Il veut le violenter. Il veut que l'État disparaisse, par exemple, le punk anarchiste. Mais en même temps, je crois que les punks, c'est ça, ils créent. C'est ça qui moi j'adore. C'est pas le côté négatif du punk qui j'adore. C'est ce côté subjectivation collective. Et ça, c'est le commencement du punk, non? C'est Iggy Pop qui dit non, c'est bon, on arrête avec la scène et le public à propos d'eux. Non, on arrête ça, c'est bon. On fait des petits groupes, mais ensemble, on joue ensemble. C'est ça, cette idée de création collective qui j'adore dans le punk, de mettre ensemble. La musique, c'est pas une hauteur. Pour ça, La critique de l'auteur, j'aime beaucoup. Mais cette idée, moi, la chose que je le trouve bien, cette idée de Guattari de sujet groupe. Et mon question, on trouve dans le punk le sujet groupe, le sujet collectif dans cette idée de mettre ensemble et en même temps de pas être masse et pas de pas être non, de se singulariser et de mettre ensemble en même temps. C'est ça que je crois. J'espère de trouver dans le punk ça.
Peut-être une dernière question rapide.
J'ai pas répondu très bien, mais
toute rapide, pardon, mais c'est vrai que je avant de manger, parce que je crois qu'on a tous faim.
Oui, moi aussi, j'ai faim.
Honneur aux dames, quand même. Il n'y a pas eu de femme encore pour poser la question. Donc, Monique, une dernière question.
Une petite, une remarque. D'abord, merci d'avoir, dans votre communication, traité du mouvement punk avec cette base artistique qui n'est pas si fréquente dans les journées qu'on côtoie. Mmh. Tout ce mouvement arty, et surtout d'avoir rassemblé sur la même exposition des formats, des supports, le cinéma. La musique, bien sûr, oui, ça, c'est coutumier par rapport au mouvement punk. Le mode de vie, enfin, la question du squat, très, très intéressant. De s'être approprié les codes de communication, enfin, d'expression plutôt, du mouvement punk, à savoir les collages, le copy art et tout ça. Oui. Et puis les mots, la poésie, ça, c'est pas si courant que ça, d'avoir associé la poésie au mouvement punk. Donc, finalement, c'est vrai que vous avez extrait toute une matière artistique qui dépasse les sentiers battus de simplement la musique. Donc, ça, c'est une belle richesse. Et par rapport au mur de fanzine, j'ai souvenance que sur une précédente journée Pint, qui était avec la thématique des fanzines, on avait réalisé justement un mur de fanzines. Donc, bravo pour la richesse et la diversité de cette exposition.
Merci.
Et cette idée aussi que ce que vous exprimiez tout à l'heure, que vous avez connu le punk après, ça c'est intéressant parce que du coup, vous avez un autre regard que celui qui est historiquement et chronologiquement appréhendé. Donc, ça fait une belle matière quasiment pour une journée pinde, hein, parce qu'il y a tous les supports. Donc, bravo.
Merci bien. Merci. Je vais te répondre à ta question sur le problème. Oui, on a été attaqués par des artistes et par des autres. On a été attaqués beaucoup parce que nous, on a fait la galerie s'appelle Résidence 9 BRD Sénanon. Ils ont dit, mais oh non, vous faites une exposition sur une galerie qui est sponsorisée par BRD. Et mon réponse a été par cynisme.
Okay. Bon, on peut conclure sur cette matinée. Merci beaucoup, Mihai, pour cette présentation sur une vraie exposition punk, hein, du début à la fin, du coup. Merci beaucoup.